Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal de Belinda Bosuma.
Nouveaux affrontements depuis ce matin à Tongo et Bichoucha dans le Rutshuru au Nord Kivu. Ils opposent les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Entre-temps, dans le Masisi, c'est un calme précaire à Kichanga où la situation reste incertaine. Multiplicité des cas de vindicte populaire dans la province du Sud Kivu. L'alerte est de la Commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Bukavu. Tenez, pour le seul mois de septembre dernier, une dizaine de femmes accusées de sorcellerie ont été brûlées vives. La CDJP interpelle notamment les services de sécurité. Et puis, l'invité de ce midi, Dr Charles Omesumbu, médecin coordonnateur provincial du programme national de la santé oculaire et de la vision au Maniema, il s'exprime sur la journée internationale de la vue, journée célébrée chaque deuxième jeudi du mois d'octobre. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des violents affrontements sont encore signalés depuis ce dimanche matin entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23 dans la région de Tongo et Bichoucha, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, dans le Masisi. C'est un calme précaire qui est signalé dans la région de Kichanga où la situation reste incertaine. Le point avec vous, Alain Rungmushinj.
Nos sources dans la région renseignent que des affrontements se déroulent notamment à Rutshuru, Kiyonga, Rushege et Kisangani dans la partie Tongo, mais aussi autour de Bwiza, notamment à Sand City, Tanzanie et Kaveni, à environ 7 km de Bwiza. D'après nos sources, la coalition des groupes armés locaux tente de bloquer le passage au renfort du M23 sur l'axe Tongo, tentant d'occuper également Bwiza, l'un des grands bastions des rebelles du M23. Quelques civils auraient été blessés, notamment un habitant de Rutshuru, affirme nos sources. Des détonations de bombes ont également été entendues dans cette partie. Par ailleurs, dans le Masisi, quelques accrochages ont également été signalés pendant la nuit à trois endroits différents autour de Kichanga, notamment à Burungu.
Par ailleurs, des milliers de déplacés ayant fui la guerre dans la chefferie de Bwito et une partie de Masisi rencontrent d'énormes difficultés dans leur milieu de refuge à Bambo. Nous sommes toujours au Nord Kivu. D'après nos sources, ces déplacés qui ont fui les récents affrontements se sont ajoutés à d'autres qui étaient déjà à Bambo depuis quelques mois, certains dans des familles d'accueil et d'autres entassés dans des écoles et des églises. Toutes ces personnes vivent dans des conditions difficiles car les ONG humanitaires n'accèdent plus à la zone à cause des affrontements récurrents. Un activiste local des droits humains que nous avons réussi à joindre à Bambo lance ici un SOS au gouvernement, aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces personnes qui manquent de tout. Écoutez-le, il a requis l'anonymat.
Tunaendelea pia serikali yetu yowe sababu mji wa Bambo umejaa tena wakimbizi wengi.
Nous sommes en train de lancer un cri d'alarme à notre gouvernement car la localité de Bambo est remplie de déplacés. Les mois passés, il y a des ONG qui sont arrivées ici pour faire le constat de la situation. Nous leur avons montré ici à l'EPE Bugina, Institut de Kabizo et d'autres écoles à Bambo. Actuellement, les déplacés viennent encore plus nombreux, surtout ceux qui viennent de Tongo, Maranga, Angara, Kisangani et Busenene. Tous sont entassés ici. D'autres viennent des Kabizo. Certains sont dans des familles d'accueil, d'autres dans des écoles et manquent de tout. Ils continuent à affluer à Bambo. Il y a les anciens déplacés qui sont venus de Lubwe Sud et Nord qui n'ont jamais été assistés. Et voilà d'autres qui viennent de s'ajouter à eux.
Vraiment, tunaomba wawasaidie.
D'après nos sources, l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, est présente dans la zone pour appuyer l'hôpital et la zone de santé de Bambo pour assurer des soins à la population locale et aux déplacés dans une grande partie de Bwito. En Ituri, pendant ce temps, la société civile du territoire de Mambasa demande aux FARDC de retourner dans leur famille plus de 100 rescapés des EDF libérés au début du mois de septembre dernier. C'était lors des opérations militaires vers Mamove, à la limite entre les territoires de Beni au Nord Kivu, Irumu et Mambasa en Ituri, à une centaine de kilomètres de Bunia. Dans une déclaration à la presse hier, cette structure citoyenne indique que ces personnes seraient gardées à l'état-major de l'armée à Beni au Nord Kivu. La présidente de la société civile de Beni ajoute que leurs membres de famille s'impatientent de voir leurs proches. Marie-Noël Anotane s'inquiète que les FARDC ont interdit même de leur rendre visite. Au micro de Isaac Remoyope, elle lance un appel aux autorités militaires compétentes.
Ça fait pratiquement plus de 50 jours que ces rescapés sont détenus au niveau de Beni à l'unité de FARDC. RDC Sokola 1. Nous avons collaboré avec la société civile de Beni. Nos membres ont quitté même Luemba, Biakato, Makumo pour aller leur rendre visite, leur amener même à manger, les habits. Voilà, aujourd'hui, ils sont même bloqués, ils n'ont plus accès. Donc, qu'est-ce qu'ils sont coupables et qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés? Les cris d'alarme que nous lançons aux autorités territoriales, aux gouverneurs militaires, aux responsables de la 32e région militaire au niveau de la province pour essayer d'échanger et trouver un issue favorable afin que nos compatriotes qui sont des Mingazi, qui sont des Lake, soient libérés et qu'ils reviennent dans leur champ, là où ils ont l'habitude de vivre et de faire leurs travaux.
Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée, mais des sources militaires indiquent que ces personnes sont en train d'être auditionnées pour besoin de renseignements. Et puis, les questions liées à la sécurisation et à la démarcation des frontières communes, à la coopération militaire et sécuritaire, à la neutralisation des groupes armés sont entre autres les points au menu de la 8e session ordinaire de la Grande Commission mixte entre la RDC et l'Ouganda, travaux clôturés hier à Kinshasa, conscient des obligations naturelles eu égard à la position géographique entre les deux pays, à l'histoire commune et à leur culture. La RDC et l'Ouganda ont tout intérêt à avoir des concertations permanentes. Pour ce faire, les deux parties se sont convenues de mettre sur pied, en dehors 3 mois, un comité mixte permanent de suivi de la mise en œuvre des plusieurs recommandations issues de cette session. Les grandes lignes avec vous, Jacques-Yves Molima.
D'entrée de jeu, les deux pays ont convenu de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Ils ont également passé au peigne fin la question de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, celle du rapatriement des réfugiés et de la coopération décentralisée entre les entités territoriales décentralisées frontalières. Plusieurs autres domaines ont également fait objet de discussions. C'est entre autres les domaines du commerce, de la fiscalité, des douanes et de la construction des lignes électriques ainsi que des routes entre les deux pays et de l'exploration des hydrocarbures dans la zone d'intérêt commun. Par ailleurs, les deux parties ont discuté des possibilités de coopération dans les domaines de l'administration publique, la lutte contre la corruption, le respect des droits humains, la justice, la jeunesse, la santé, l'échange des prisonniers et les transports aériens pour ne citer que cela. Ils se sont convenus de poursuivre les consultations en vue de finaliser ces accords. Notons que le ministre d'État en charge d'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi a conduit la délégation de la RDC lors de ses assises et celle de l'Ouganda a été conduite par Mme Rebecca Kadaga, première vice-premier ministre et ministre des Affaires de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est.
Direction le Sud Kivu. La commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu dénonce la multiplicité des cas de vindictes populaires dans la province. Tenez, pour le seul mois de septembre dernier, une dizaine de femmes accusées de sorcellerie ont été brûlées vives. La CDJP interpelle les services de sécurité et la justice, mais aussi le pouvoir coutumier devant ce genre de pratiques pourtant répréhensibles par la loi. Emmanuel Elameji Wakabedi.
La dénonciation de la CDJP est faite dans un flash spécial du mois d'octobre 2023. Elle parle des pratiques répréhensibles par la loi et étranges à notre culture. Pour le seul mois de septembre 2023, 8 femmes accusées de sorcières ont été brûlées vives par les membres de la communauté dans les territoires de Walungu, Kalehe et Fizi. Le cas le plus récent remonte au 6 octobre 2023 à Chiherano, en territoire de Walungu. Une femme, 70 ans révolue, mère de 6 enfants, a été violemment et bestialement tuée par vindictes populaires. Ces bourreaux, bien identifiés, sont pourtant les personnes qui partagent avec elles le même village, la même famille et la même religion. La CDJP regrette que ces criotés ne viennent pas de groupes ou bandits armés, mais plutôt des civils, dont de chrétiens. Cette structure de l'archidiocèse de Bukavu interpelle ainsi les procureurs et les juges, la police et l'armée, les services de renseignement et les pouvoirs coutumiers, eux qui sont censés intervenir pour interdire et restaurer la paix. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
province de Lomami, les habitants des localités de Ibola et de Kafumba dans la chefferie de Kachisungu, territoire de Lwilou, ont enfin enterré la hache de guerre grâce aux bons offices de l'administrateur de ce territoire. C'est depuis plusieurs années que ces habitants se regardent en chiens de faïence suite au conflit foncier qui les oppose. Un rapport d'enquête effectué par une commission territoriale a même été publié vendredi à ce sujet par l'autorité territoriale. Esther Ndalafina nous en parle.
Le rapport d'enquête effectué par la commission territoriale donne les détails sur la qualité des personnes désignées pour représenter les habitants de ces deux localités en conflit ainsi que celle des experts du territoire. Ce rapport indique également la méthodologie utilisée et les endroits investigués pour déterminer les limites sources des conflits entre les deux localités. D'après l'administrateur de territoire de Lwilou, les parties en conflit se disputent deux savanes, dont celle de la mission protestante dénommée Kasha. En conclusion, les enquêteurs ont trouvé que la localité de Ibola a existé avant celle de Kafumba. La commission a identifié les limites qui séparent les deux localités en conflit. Ces limites ont été intentionnellement modifiées par une des parties. Une copie des résolutions prises par les enquêteurs a été envoyée aux représentants de ces deux parties. L'administrateur de territoire qui a initié cette enquête se dit satisfait d'avoir rendu possible la cohabitation entre les habitants de ces deux localités. Il a prodigué des sages conseils pour une paix durable. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC, APROMEN en sigle, plaide auprès du Parlement pour la mise en place d'un cadre et réglementaire de la normalisation en RDC. Cela permettra aux pouvoirs publics, dans le respect des engagements internationaux et nationaux, de mettre à disposition par exemple des infrastructures de base de qualité pour assurer des services efficaces de desserte, notamment en eau, énergie, éducation et alimentation. L'APROMEN a fait cette déclaration hier, 14 octobre, à l'occasion de la Journée internationale de la normalisation. Le président de cette structure, tout en fustigeant le non-respect des normes et règles en RDC dans les différents domaines, appelle aussi le citoyen congolais à s'approprier cette question pour plus de compétitivité sur le plan international. On écoute Bertin Toumba au micro d'Alain Rong.
La normalisation, c'est l'activité qui peut être définie simplement comme étant celle consistant à établir les normes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre. La normalisation, en fait, procède de la prise de conscience des membres d'une communauté à se mettre ensemble, trouver un référentiel commun, le langage dans la communauté, et puis pour aider à résoudre des problèmes qui se posent de manière récurrente et ensemble faire face aux risques potentiels qui se trouvent dans la communauté, en anticipant des solutions sur les problèmes potentiels de la communauté.
Allons-y par un exemple concret pour faciliter la compréhension.
Le pain. Souvent, les gens se plaignent, le prix monte. Par rapport à quoi? Donc, en amont, les caractéristiques du pain doivent être définies. Il faut qu'il y ait des normes sur le pain. Quand on dit on achète un pain de telle qualité, on doit savoir que cette qualité correspond à telle caractéristique qui doivent être connues. La même logique pour les médicaments, pour tous les produits de consommation.
Autre nouvelle, la République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales, entre rationalité et rentabilité, c'est le titre de l'ouvrage de 456 pages écrit par le professeur et député national Claude Nyamugabo. La cérémonie de vernissage a eu lieu hier au Palais du Peuple à Kinshasa. L'ouvrage est préfacé par le professeur Jean-Pierre Mavungu, juge à la Cour constitutionnelle. Le livre analyse les controverses qui transparaissent d'une part pour les avantages ou opportunités pour la RDC à se retrouver au sein de plusieurs organisations régionales d'intégration africaine et de l'autre, les inconvénients issus de ces multiples adhésions. Dans cet ouvrage, l'auteur livre une réflexion stratégique sur les options les plus adaptées quant à cette problématique. D'après l'auteur, la rationalité dans la multi-appartenance suppose un choix judicieux des communautés auxquelles il faudra adhérer. Claude Nyamugabo, auteur du livre, donne ici quelques aspects de ses conclusions au micro de Billy Van Lutumba.
Il faut, avant toute appartenance à une organisation, avant toute adhésion, faire une étude de faisabilité. Consulter les Congolais, consulter les experts en vue d'avoir des retombées dans ces organisations parce que c'est vrai, la République démocratique du Congo, vu sa position géostratégique, est appelée à être membre des organisations. Nous avons mis sur pied des indicateurs d'une bonne participation. Un des indicateurs, par exemple, il faut pouvoir payer les cotisations parce que payer les cotisations vous donne droit à la parole, vous donne également droit à placer les nationaux dans les différentes organisations. Nous ne prenons pas part aux réunions au plus haut sommet et c'est ici l'occasion de saluer les multiples visites du chef de l'État à travers les organisations internationales. Un des indicateurs d'une bonne participation à une organisation internationale, c'est la participation au plus haut niveau. Et le plus haut niveau ici, c'est le niveau du chef de l'État. Il y a des critères qui vont permettre à ce que notre pays fasse une participation rationnelle, donc bien pensée, et une participation qui puisse avoir des retombées pour le peuple congolais.
Si alors que dans son analyse au sein de l'ouvrage, l'auteur a examiné l'appartenance de la RDC à la CEAC, la SADC, au COMESA et à l'EAC.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. 6 mois après le début du conflit, la guerre dans le pays continue d'infliger d'indicibles souffrances, mettant des vies en danger, déplaçant des millions de personnes de leur foyer et causant des décès, selon Médecins sans frontières, MSF, qui déplore le manque de protection des civils. Ces derniers vivent au gré des bombardements, des tirs d'obus et des fusillades. Les ONG appellent à une augmentation significative des efforts humanitaires, à la protection du personnel médical, des travailleurs humanitaires et des civils, et à la levée des blocages administratifs sur le personnel et les fournitures médicales et humanitaires. Sachez que 9000 personnes ont été tuées au Soudan depuis le début de la guerre et plus de 5 millions ont été déplacés, aggravant ainsi la crise humanitaire et sanitaire dans le pays.
L'invité.
Nous recevons ce midi le docteur Charles Omesumbu, médecin coordonnateur provincial du programme national de la santé oculaire et de la vision du Maniema. Il est aussi médecin directeur du centre des soins oculaires de la 5e CELPA Kindu. Comme vous le savez, le deuxième jeudi du mois d'octobre, on célèbre la journée internationale de la vue. Le docteur Charles Omesumbu s'entretient à ce sujet avec Florence Kiza.
Docteur Charles Omesumbu, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Docteur, chaque deuxième jeudi du mois d'octobre, on célèbre la journée de la vue. Vous conseillez la population à aimer ses yeux. Ça veut dire quoi?
Merci beaucoup, madame la journaliste. Effectivement, et cette année, le deuxième jeudi du mois d'octobre tombe le 12. Le thème principal au niveau mondial, c'est aimer vos yeux. Donc, nous conseillons principalement cette année aux travailleurs de consulter au moins une fois l'an un ophtalmologiste. Parce que, comme vous le savez, les travailleurs, la plupart avoisinent les 40 ans. La plupart. Ou dépassent les 40 ans. Et au-delà des 40 ans, il y a des maladies qui commencent à survenir. Pour lesquelles il est important de poser le diagnostic à temps et que nous puissions envisager une prise en charge cohérente. Et parmi ces maladies, celle qui survient le plus, c'est les erreurs de réfraction. La plupart utilisent leurs yeux pour lire des paperasses, pour lire dans l'ordinateur, etc. C'est ça leur travail de tous les jours. Pour lire la Bible, tout ça. Et toutes ces personnes-là, s'ils ne savent plus lire, c'est un problème. Ils doivent consulter, comme ça ils ont des conseils adéquats.
Docteur, pourquoi seulement choisir les travailleurs? C'est que ceux qui ne travaillent pas n'ont pas droit de soigner leurs yeux?
Mais au fond, qui est travailleur? Même cette ménagère qui est à la maison est aussi travailleuse. Vous savez qu'elle peut enfiler l'aiguille, mais si elle ne voit plus bien, elle ne saura plus enfiler l'aiguille, elle ne saura plus coudre, elle ne saura plus trier le riz du paddy. Donc, tout le monde est travailleur, donc... À part les travailleurs qui sont dans les bureaux, il y en a même les maraîchères, il y en a même tous ceux-là qui peuvent vendre, mais ils doivent bien compter leur argent. S'ils ne voient plus bien, comment ils vont compter leur argent? Comment ils peuvent émettre des factures? Même des commerçantes, ce sont des travailleuses. Donc, quand nous disons travailleurs, c'est toute personne qui est en activité.
Chaque année, docteur, vous êtes spécialiste et au Maniema, vous êtes en train de traiter ces cas. Comment est la situation?
Merci beaucoup, madame la journaliste. Si nous pouvons regarder les pathologies émergentes ou prédominantes dans notre province, nous dirons que la première cause de consultation chez nous, ce sont les erreurs de réfraction. Les erreurs de réfraction, ce sont ces maladies qui se corrigent en portant des lunettes. Il y en a qui ne savent plus lire, il y en a qui ne savent pas voir au loin, mais qui nécessitent uniquement des lunettes pour voir. Mais la première cause de cécité, celle qui rend aveugle les gens, c'est la cataracte. Et la cataracte est heureusement réversible. Quelqu'un peut être déjà aveugle, mais si nous l'opérons, on peut recouvrer la vue. Mais malheureusement, à côté de la cataracte, Il y a une troisième maladie qui est là et qui nous vient le plus souvent dans le sud du Maniema, c'est le glaucome. Le glaucome donne malheureusement une cécité irréversible et il est important de poser le diagnostic pendant que la personne peut encore voir. Et de cette manière, on peut sauvegarder la vision existante, soit médicalement avec des médicaments, soit chirurgicalement au cours d'une intervention chirurgicale. Voilà, le reste, ce sont des conjonctivites qui viennent ça et là, saisonnières, surtout pendant la saison sèche, etc. Et voilà.
On doit consulter une fois l'an ses yeux, mais docteur, il y a ceux-là qui disent que c'est trop cher. Ici, au Maniema, qu'est-ce que vous avez prévu à marge de cette journée?
Merci beaucoup, c'est vrai. Mais par rapport au degré d'amour qu'ils ont pour leurs yeux, il n'y a rien qui pourra être trop cher. Essayez simplement de fermer vos yeux. Qu'est-ce que vous voyez? C'est le noir, n'est-ce pas? Et si ce noir doit perdurer toute la vie, je ne sais pas, peut-être que vous donneriez n'importe quoi pour récupérer votre vision, si les gens pouvaient comprendre ça. Mais nous savons aussi que, malgré tout ça, il y a des gens qui ne peuvent pas nous voir, ou qui disent qu'ils ne peuvent pas nous voir, faute de moyens. Alors, nous n'avons pas reçu de quiconque un certain droit, on n'a pas reçu non plus de soutien, mais chaque année nous donnons de notre expertise. C'est notre façon de partager nos connaissances avec la population du Maniema. Nous allons consulter, nous allons utiliser nos appareils pour consulter gratuitement pendant 2 jours. Donc, le lundi 16 et le mardi 17 octobre, nous allons faire les journées portes ouvertes au centre de soins oculaires 5e Selpa, Kindu. C'est là que le programme national de la santé oculaire et de la vision au Maniema a choisi de consulter les malades cette année.
Docteur Charles Omesumbo, merci.
Merci beaucoup, Madame la journaliste.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kiza. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Irungmushinj, coordination de Jacques-Yves Molima, Aouta, à la mise en onde, Polydor Basunga. Merci d'avoir été des nôtres.